Le journal Camille Magnard, bonjour.
Bonjour à tous. Tension maximale ce vendredi dans la vieille ville de Jérusalem à l'esplanade des mosquées. La police israélienne interdit l'accès aux hommes de moins de 50 ans. On craint de nouveaux affrontements pour la grande prière qui commence à l'instant. La police italienne aura mis 16 ans à faire son mea culpa. Elle reconnaît des actes de violence policière et même de torture commis en juillet 2001 contre des militants altermondialistes. C'était au G8 de Gênes. Correspondance à suivre de Mathilde Imberti. Le Front National veut se refonder, remettre à plat les dissensions idéologiques et les batailles d'ego aussi. Après la défaite de Marine Le Pen, le parti lance un séminaire de refondation suivi pour nous par Christine Moncla. Francfort ou Paris, la bataille fait rage entre les deux places bancaires européennes pour attirer les futurs exilés du Brexit. Avantage Francfort pour le moment, nous dira Marie-France Abastado. Et puis la mort de Claude Riche, immense comédien de théâtre et de cinéma français, des tontons flingueurs à Astérix et Cléopâtre. Laure Verneau reviendra pour nous sur l'impressionnante carrière de l'homme au regard si doux. Je vous le disais en titre, il aura fallu 16 années en Italie, 16 ans pour que la police italienne reconnaisse les cas de torture, de violence policière perpétrés dans cette nuit du 20 au 21 juillet 2001. C'était en marge du sommet du G8 à Gênes, première grande mobilisation altermondialiste, durement réprimée donc, avec la mort, on s'en souvient, du militant italien Carlo Giuliani et ses exactions policières reconnues sur le tard par Rome, Mathilde Imberti.
C'est dans une interview au quotidien La Repubblica parue mercredi que le chef de la police italienne, Franco Gabrielli, bat sa coulpe. 16 ans après le déchaînement de violence dans une école de Gênes, au lendemain de la mort par balle du jeune Carlo Giuliani. Le premier policier d'Italie raconte comment, pour assurer un certain nombre d'arrestations, faire du chiffre en d'autres termes, les unités d'élite ont fait irruption dans l'école Diaz, le camp de base des contestataires. 93 d'entre eux seront blessés lors de l'intervention. D'autres ont été transférés dans une caserne où durant 3 jours les violences se sont succédées. Des actes de torture ont alors été commis, reconnaît Franco Gabrielli. Plusieurs responsables des forces de l'ordre ont été condamnés en Italie pour ces faits, mais à des peines relativement légères, car le délit de torture ne figurait pas dans l'arsenal législatif italien alors. Il a été adopté par le Parlement au début de cet été. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné à 2 reprises l'Italie pour ces violences policières commises en marge du G8 de Gênes.
Mathilde Imberti, la Turquie et la Grèce frappées par un violent séisme la nuit dernière, des secousses qui ont atteint une magnitude de près de 7 sur l'échelle de Richter. Des deux côtés de la mer Égée, l'île grecque de Kos et la cité balnéaire turque de Bodrum sont particulièrement touchés, avec des dégâts matériels importants mais un bilan humain qui se limite à 2 morts côté grec et des centaines de blessés hospitalisés. Et puis l'Allemagne qui reste prudente, le gouvernement allemand, sur ses sanctions contre la Turquie, laquelle détient toujours, on le sait, l'un des ressortissants allemands, un militant des droits de l'homme d'Amnesty International. Berlin ne confirme pas ce matin l'information du quotidien Bild, selon qui les ventes d'armes allemandes à la Turquie seraient gelées. Les contrats d'armement sont réexaminés, nuance le gouvernement, qui avait déjà renforcé les contrôles sur ses exportations d'armes depuis la répression du putsch manqué en Turquie, c'était il y a 1 an. La politique en France, c'est l'heure des grandes remises en question pour les perdants des dernières élections. Après la rénovation lancée par un parti socialiste dévasté et ruiné, voici la refondation au Front National. C'est Marine Le Pen en personne qui avait lancé le mouvement. Il se concrétise donc aujourd'hui et demain avec un séminaire à huis clos. Les ténors du parti y sont, avec pas mal de lignes de fracture qui se sont fait jour depuis la débâcle de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Bonjour Christine Moncla.
Bonjour Camille.
La première des fractures idéologiques, en tout cas celle qui suscite le plus de débats en public, c'est la position du Front National sur sortir ou non de l'euro.
Oui, c'est le point sur lequel chacun donne son avis et toujours en référence à celui de Florian Philippot qui, on le sait, en fait l'alpha et l'oméga de toute action politique. L'euro, un sujet qui, à tort, estime Louis Alliot, vice-président et compagnon de Marine Le Pen, a été mis au centre des débats à la présidentielle. C'est le sujet qui a fait trébucher Marine Le Pen entre les deux tours, qui a révélé les divisions en interne, à prendre donc avec beaucoup de précautions, même si, au fond, tous sont d'accord sur le constat, c'est que pour mener une politique nationale ou patriote, c'est selon une monnaie unique européenne et pour eux un handicap. Ils divergent plutôt sur la méthode. Sortir donc directement de l'euro pour le camp de Florian Philippot, contourner la banque centrale pour les plus libéraux comme Nicolas Bay. Ils divergent aussi sur la forme. Il ne faut plus l'aborder frontalement, ce sujet. Il faut le présenter comme un outil de souveraineté, pas comme un préalable, dit par exemple Sébastien Chenu, qui est plus sur la ligne de Marine Le Pen. On revient donc toujours bien au souverainisme de Philippot. En tout cas, il faudra à sortir de ce séminaire avec une question claire à ce sujet à soumettre aux adhérents à la rentrée, sachant que si ce thème avait vraiment été porteur, le FN n'aurait pas autant dévissé dans les élections qui viennent de se dérouler.
Et puis Christine, la question de la sortie de l'euro, elle cache aussi d'autres divisions sur la ligne du parti, sur des sujets de fond, des thématiques identitaires en particulier.
Oui, si Florian Philippot a menacé de démissionner si le FN abandonnait la sortie de l'euro, eh bien c'est un historique du parti, son trésorier, ancien avocat de Jean-Marie Le Pen, Valrand Saint-Just, qui l'imite aujourd'hui, mais dans l'autre sens, il ferait de même, il partirait si le FN abandonnait ses idées de base, ses fondamentaux, à savoir immigration et insécurité. L'économiste du parti Bernard Monod juge que l'ADN du Front doit rester la lutte contre l'immigration, qu'elle soit illégale ou légale, car en effet, pour la première fois, l'approche frontiste de ces thèmes a été ouvertement critiquée, là encore par Florian Philippot et ses proches. La manière de traiter l'immigration est trop anxiogène, juge-t-il. Or, ce thème, bien plus que l'économie, est un moteur du vote Front National. Si le parti change de nom et qu'en plus, il ne demande plus le départ des immigrés, il y a un risque de perdre la base, sans garantie de séduire largement à droite. Là aussi, Marine Le Pen devra trouver le point d'équilibre.
Christine Moncla, merci à vous. Le séminaire de refondation donc, du Front National se poursuit cet après-midi. Demain également, une feuille de route doit en sortir. Elle sera soumise aux militants dans une consultation interne avant le congrès qui aura lieu l'an prochain. France Culture, midi passé de 36 minutes. Nous revenons sur le premier titre que je vous donnais en début de journal. Et donc, ce vendredi, jour de grande prière musulmane et journée de tous les dangers à Jérusalem. La police israélienne interdit à tous les hommes de moins de 50 ans l'accès à l'esplanade des mosquées. Aujourd'hui, ce lieu saint de l'islam dans la vieille ville où se réunissent des dizaines de milliers de fidèles chaque vendredi. Cette fois, on le sait, le contexte est plus explosif que jamais. Depuis 5 jours, Israël a installé des portiques de sécurité à l'entrée du site. Les autorités musulmanes, elles, ont appelé les croyants à refuser ces contrôles, à affluer vers l'esplanade pour y prier dans la rue. La nuit dernière encore, ça s'est soldé par des affrontements avec la police. Voilà où l'on en est aujourd'hui, alors que débute donc la grande prière de la mi-journée. Étienne Monin, vous êtes sur place pour France Culture. La vieille ville de Jérusalem est entièrement bouclée.
Oui, et l'ambiance à Jérusalem est à la fois électrique et fantomatique dans cette partie de la ville. La ville est sous très haute sécurité. Les quartiers palestiniens autour ont été cloisonnés. Seuls les hommes de plus de 50 ans, et encore pas tous, d'après les témoignages des Palestiniens rencontrés, peuvent passer les barrages. Les rues autour sont quasiment désertiques. On voit avancer au compte-gouttes des hommes et des femmes âgées qui viennent pour prier à l'extérieur de l'esplanade. C'est une prière de rue pour boycotter l'installation des détecteurs de métaux. Toutes les autorités religieuses ce matin rejettent le dispositif imposé par les Israéliens. Ces autorités considèrent que c'est une atteinte aux règles tacites qui régissent la gestion du site depuis des décennies. Ils ont appelé les fidèles à venir en masse pour cette prière qui est en train de se terminer plutôt dans le calme. Cette situation, malgré tout, est potentiellement explosive. C'est le deuxième vendredi sans prière sur l'esplanade des mosquées. Hier, le cabinet de sécurité israélien a confirmé le maintien du dispositif. Il estime que ces détecteurs de métaux laissent l'accès libre et assurent la sécurité sans toucher au statu quo. Ce matin, le journal Haaretz citait un anonyme israélien disant que ces détecteurs pourraient être utilisés de façon limitée, mais les positions se sont maintenant radicalisées et les autorités religieuses musulmanes demandent le retrait des portiques. La sécurité intérieure et l'armée israélienne craignent maintenant un embrasement. Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem, tous ces secteurs sont sous haute sécurité. On entend dans certains quartiers à Jérusalem des bruits de grenades assourdissants qui résonnent de manière sporadique.
Étienne Monin, merci. Vous étiez en direct de Jérusalem pour France Culture. 6 heures de discussion sur un texte qui n'existe même pas, résumé, et critique de la concertation sur la réforme du Code du Travail selon Philippe Martinez. Le Premier ministre et la ministre du Travail terminent aujourd'hui leur tour de table avec les syndicats et les organisations patronales. Pour le secrétaire général de la CGT, donc, la méthode de ce dialogue affiché ne sert pas à grand-chose tant que le texte des ordonnances sur la réforme du Code du Travail n'est pas connu. Et quand il le sera, eh bien, il faudra mettre tout le monde autour d'une même table. C'est ça qu'il a dit Philippe Martinez ce matin chez nos confrères de France Inter.
On critique la méthode, c'est-à-dire qu'on nous donne l'impression qu'il y a une négociation, une concertation. On a fait des propositions, le gouvernement avait dit, et la ministre avait dit, mais on va regarder toutes les propositions, sauf que aujourd'hui, à la fin du premier cycle, comme vous dites, on ne sait toujours pas ce qui va être retenu, ce qui va être mis dans les ordonnances, et on est dans le flou. Par contre, on a des certitudes sur une volonté du gouvernement de passer pratiquement beaucoup de questions sur les accords d'entreprise au détriment du droit collectif. Et ça, ça nous inquiète beaucoup. On ne sait pas encore s'il y aura une deuxième étape, soit des bilatérales, mais nous, ce qu'on demande, et je crois que l'ensemble des syndicats sont d'accord, y compris une partie du patronat, pour que, comme dans toute négociation, on se retrouve tous autour de la table, parce que quand on est reçu les uns après les autres, parfois, on ne dit pas la même chose aux uns et aux autres. Donc, quand on est tous autour de la table, on entend tous la même chose.
Philippe Martinez sur France Inter ce matin qui a lancé un appel à la mobilisation pour la journée du 12 septembre prochain. Un chantier de plus pour le gouvernement Philippe, c'est sa ministre de la Justice Nicole Belloubet qui précise dans les colonnes du Figaro sa volonté de porter une réforme de la politique pénale. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
La garde des Sceaux dit vouloir simplifier les procédures pénales, réfléchir à la forfaitisation de certaines peines. Elle confirme aussi la construction de toujours plus de places de prison.
15 000 places de prison en tout sur le quinquennat, c'était un engagement du candidat Macron et d'ores et déjà 700 vont être prochainement ouvertes, des places prévues par les plans précédents. Pour cela, il faut de l'argent et la justice en manque cruellement et en plus, on demande au ministère 160 millions d'euros d'économies. Pas de quoi inquiéter la garde des Sceaux qui s'affirme solidaire de l'effort gouvernemental. Elle relativise la somme en la mettant en perspective avec celle du budget global de la justice, 8,5 milliards d'euros. Et elle ajoute que ces économies vont porter uniquement sur des crédits qui étaient gelés. Et de toute façon, pour Nicole Belloubet, ça n'est pas uniquement une question de moyens. Il faut améliorer l'efficacité de la justice, notamment en simplifiant la procédure pénale. Elle est par exemple favorable à la forfaitisation d'un certain nombre de contraventions et de délits, l'usage de stupéfiants par exemple. Cela permettrait de désengorger les tribunaux sans renoncer au caractère dissuasif de la peine. La ministre de la Justice souhaite également développer les mesures alternatives aux peines. Elle s'engage également à un meilleur suivi des détenus dans l'exécution des peines.
Antoine Maret, merci à vous. Grande Banque Internationale cherche ville européenne pour relocaliser ses bureaux londoniens. En vue du Brexit, c'est le genre de petite annonce qui aiguise les appétits en ce moment. Les appétits des places financières du vieux continent qui espèrent attirer donc les banques qui vont fuir la City pour chercher ailleurs à conserver leur licence bancaire européenne. Paris se positionne bien sûr, mais pour le moment c'est plutôt Francfort, l'allemande, qui semble avoir la cote, Marie-France Abastado.
Oui, cette semaine, Francfort semble effectivement avoir marqué des points. Plusieurs groupes américains comme Morgan Stanley, Citigroup ou Goldman Sachs et même des groupes japonais comme Sumimoto Mitsui Financial Group ou Nomura ont montré leur intérêt pour la ville allemande qui est déjà, rappelons-le, le siège de la Banque Centrale Européenne. Mais Paris ne baisse pas les bras et continue de courtiser les banques et les fonds d'investissement à l'étranger. Le délégué général de Paris Europlace, Arnaud de Bresson, est aujourd'hui à Tokyo pour tenter de séduire les institutions financières nippones. Il fait valoir les mesures proposées par le gouvernement Philippe pour augmenter l'attractivité de Paris comme place financière. On parle par exemple d'une baisse de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 33 à 25% d'ici 2022, d'une réduction d'impôt aussi pour les hauts salariés et il y a bien sûr la réforme du Code du travail qui pourrait assouplir les règles de licenciement et donc réduire les risques des entreprises quand elles embauchent. C'est donc entre autres avec ces arguments qu'Arnaud de Bresson veut convaincre que d'un point de vue économique, Paris est le meilleur endroit d'Europe pour devenir la place financière de référence. Mais Francfort compte aussi certains atouts. Outre le siège de la Banque Centrale Européenne, elle héberge le superviseur bancaire européen, ainsi que l'autorité européenne de supervision des assurances, et elle a, au plan géographique, une position centrale. Mais il ne faut pas l'oublier, Paris et Francfort ne sont pas les seuls en lice. Dublin et le Luxembourg le sont aussi.
Marie-France Abastado, voilà qui nous amène à la page culture de ce journal où l'on apprend la mort du comédien Claude Riche, un visage indissociable du cinéma et du théâtre français. Claude Riche, décédé à l'âge de 88 ans. C'est sa famille qui vient de l'annoncer, Laure Verneau.
Oui, Claude Riche aura pendant plus de 60 ans mené une carrière sur le double front du théâtre et de la télévision. C'est en 1955 que tout commence avec un petit rôle dans Les Grandes Manœuvres de Rémy Clair, aux côtés du couple mythique Gérard Philippe et Michel Morgan, un des derniers films français à l'esthétique France d'avant-guerre, plan propre et dialogue doucereux que la nouvelle vague adorera critiquer. Et pourtant, Claude Riche se fond dans les deux. Sa silhouette longiligne a depuis traversé les époques et écumé tous les styles avec sa voix. Dans ses rôles marquants au cinéma, on retiendra celui de Talleyrand dans Le le souper de Jean-Claude Brisville qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1994. Mais enfiler les habits de Voltaire ou de Léon Blum ne l'empêche pas pour autant de donner la réplique à Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, ni d'être caporal sous les ordres de Jean Renoir dans Le Caporal épinglé. Il est Adrien Balochet qui tente de s'évader d'un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Claude Riche finit toujours par revenir au théâtre, ses premières amours. Dans les plus populaires, on trouve Le Château en Suède de Françoise Sagan ou Le Retour de Harold Pinter. Claude Riche obtient d'ailleurs le prix du Syndicat de la Critique en 1971 pour son rôle dans Adrien VII de Peter Luc. Le comédien était aussi un auteur, 4 pièces à son actif, avec les plus connues Le Zouave ou Un habit pour l'hiver. Dans le documentaire Claude Riche, J'aime tellement ça la vie, tourné en 2012, il déclarait « Un comédien peut se sentir heureux à condition d'être un autre, un bonheur par procuration qui ont fait de l'acteur comédien une figure de l'art dramatique français. »
Laure Vernot, merci pour cette évocation de Claude Riche, donc décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Le temps est assez instable pour cet après-midi, entre éclaircies sur les Pays de la Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France, et orages du massif central à la frontière allemande. Entre 15 et 20 degrés autour de la Manche cet après-midi, 20 à 25 sur la moitié nord, jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud. Ce journal était réalisé par Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h.